Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et pour cette première émission de la rentrée du mois de septembre, nous avons décidé d'aborder un sujet qui a fait l'objet d'énormément d'actualité cet été, mais pas que cet été, mais en particulier ces derniers mois. C'est la question de la relation entre la France et l'Afrique, changements politiques, changements de régime, des mouvements aussi liés à la participation française à des opérations militaires. Tout cela est bouleversé par des prises de position, par des changements politiques. Certains s'interrogent sur la fin de la France-Afrique. Est-ce que c'est réellement ce à quoi nous assistons? Et pour en parler avec nous, dans cette première partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Dupuis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et à ce titre, vous vous intéressez évidemment notamment à ce qui se passe en Afrique subsaharienne, dans ce qu'on a appelé un petit peu rapidement, après la décolonisation, le précaré français. Il y a eu énormément de changements politiques et on a l'impression que le fil conducteur, le fil directeur de ces changements, c'est souvent une défiance, voire même une hostilité à la France et aux positions françaises, et on pense en particulier à ce qui se passe actuellement au Niger, à ce qui s'est passé avant au Burkina Faso, au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui on est à un tournant de ce point de vue-là ?
Je crois qu'on est plutôt dans une logique de poursuite d'une évolution qui remonte à plusieurs décennies et non pas seulement à quelques années. Vous avez évoqué le fait que le fil serait un peu distendu, pour ne pas dire rompu. Alors je serais plus modéré. Évidemment, les médias sociaux, les médias en général, les réseaux sociaux évoquent souvent des actes d'hostilité, des manifestations de colère à l'encontre de la présence française. Néanmoins, pour ne pas paraphraser la ministre des Affaires étrangères, qui a quand même eu dans une vision assez juste de la réalité dans un article récemment, ce n'est pas 3000 ou 5000, je la cite, manifestants qui vont à eux seuls résumer le sentiment ou le ressenti vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la France et vis-à-vis de la relation qui nous lie à nos 14 anciennes colonies sur le territoire, sur le continent africain. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a depuis quelque temps des interrogations sur l'opportunité de poursuivre une relation qui parfois peut apparaître comme hypertrophiée. La présence française ne se résume pas à nos opérations extérieures, la présence française ne se résume pas à nos bases prépositionnées, nos trois bases prépositionnées sur le continent africain, en l'occurrence, donc 24 bases si on rajoute Djibouti, mais en l'occurrence au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et à Djibouti, notre présence sur le continent ne se résume pas à un lien historique, parfois un peu douloureux, ou en tout cas qui n'est pas débarrassé d'un substrat post-colonial. Mais encore une fois, la réalité est néanmoins devant nous. Un certain nombre d'actions que la France n'a pas su mener, d'accompagnement de la démocratie, d'installation de régimes non autoritaires, la prise en compte d'une volonté de la part de la jeunesse africaine pour une alternance, tout cela nous est reproché. Mais vous l'avez vous-même évoqué dans votre question, la question de la relation à la France ne se limite pas au précaré ou au pays du champ. La relation que la France entretient avec les 54 pays africains est parfois un peu abusivement et peut-être très schématique et de manière un peu schématiquement grossière présentée comme dans une logique de franche hostilité. C'est évidemment pas tout à fait le cas quand on regarde pays par pays la relation que ces pays entretiennent avec la France.
Alors, c'est vrai que il faut se mettre aussi à la place des Français, de l'opinion publique. Nous sommes intervenus au Mali en 2013 pour venir au secours, à l'appel même du gouvernement, parce qu'il y avait une menace de groupes armés djihadistes. Dans d'autres pays, nous sommes souvent en appui humanitaire, militaire. On pense aussi évidemment au Niger. Et le sentiment qu'on a, c'est que Bien, ces interventions, on est 10 ans après le Mali et le Niger, c'est encore en cours, mais que finalement, on est un petit peu aujourd'hui, les gouvernements, les nouveaux gouvernements, on va pas rentrer dans la légitimité de ces gouvernements, dont certains sont aujourd'hui issus de prises de pouvoir par l'armée, mais que finalement, la France d'allié ou de support devient un peu bouc émissaire et qu'aujourd'hui, on nous demande, les nouveaux gouvernements au Mali nous demandent de quitter. Il y a une grande tension aujourd'hui avec le Niger. Du point de vue de la France, ça donne le sentiment que la France n'est plus souhaitée, en tout cas la présence militaire et peut-être même humanitaire française n'est plus souhaitée dans un certain nombre de pays.
Oui, mais il faut faire très attention aux amalgames. Hein. Comme je l'ai expliqué, il y a de grandes différences entre les différents coups d'État et donc les réactions qu'elles provoquent. Alors, néanmoins, il faut avoir l'honnêteté de constater que maintenant, depuis 2020, il y a eu sur 7 pays, 9 coups d'État, et parmi ces 7 pays, tous, à l'exception du Soudan, étaient francophones. Donc ça, c'est une réalité, comme quoi il y a un changement de nature politique, du régime politique, qui bien souvent répond à des manques d'alternance ou à des occasions ratées de faire des élections présidentielles et législatives, des grands moments de symbiose entre la population de ces pays, la population africaine en général, et leurs dirigeants. Force est de constater que parfois nous sommes associés aux dirigeants que les forces armées chassent du pouvoir, justement pour rétablir, dans certains cas, c'est la justification qui est utilisée, des alternances politiques. Ce fut le cas en Guinée en septembre 2021, où le président Alpha Condé était honni par la population guinéenne et qui voyait évidemment aucune possibilité d'alternance politique, alors que ce dernier engageait un 4e mandat auquel il n'était pas supposé, qu'il n'était pas supposé accomplir. On pourrait dire la même chose du Tchad avec le président Idriss Déby Itno, qui, juste avant son décès en avril 2021, engageait son 7e mandat présidentiel. Donc force est de constater évidemment qu'il y a une sorte de concomitance entre des processus démocratiques qui ne sont pas au rendez-vous, des coups d'État militaires qui remettent les choses à plat et des coopérations militaires que l'on récuse justement parce qu'elles étaient la manière pour ces chefs d'État et de gouvernement de se maintenir en place. Ce fut le cas au Mali, vous l'avez mentionné. On pourrait rajouter évidemment le Burkina, le Mali avec les deux coups d'État d'août 2020 et de mai 2021, ou au Burkina avec les deux coups d'État dans la même année, en juin et en septembre 2022. On pourrait évidemment rappeler le 26 juillet le coup d'État au Niger, vous l'avez évoqué, ou le 26 août le coup d'État au Gabon. Mais je ne serai pas de ceux qui pensent que les militaires qui prennent le pouvoir sont foncièrement anti-français, et je ferai des différences d'approche. Clairement, le général Nguema, qui a pris le pouvoir le 26 août au Gabon, n'a pas récusé la relation avec la France. La meilleure preuve en est, c'est que la coopération militaire et économique entre la France et le Gabon est maintenue, comme si de rien n'était. Et il en est également le cas en Guinée, où le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas marqué une hostilité franche contre les autorités françaises.
Alors justement, arrêtons-nous un instant sur peut-être la situation au Gabon, mais c'est aussi le cas au Niger ou au Mali, c'est que la France a des injonctions contradictoires parce qu'elle est souvent perçue comme étant en soutien systématique des régimes en place. Et en même temps, c'était un petit peu la politique aussi du président Macron. Il avait dit, moi je ne discuterai pas qu'avec les chefs d'État, avec les pouvoirs en place, je tendrai aussi la main aux sociétés civiles, à la jeunesse africaine. Or, justement, est-ce que la France, elle n'est pas toujours un peu prisonnière d'un schéma de soutien systématique à des régimes qui, par leur longévité, par leur aspect aussi dynastique, clanique, c'est le cas notamment au Gabon, sont rejetés massivement par la population, et donc la France se trouve un petit peu dans une situation, acrobatique.
Oui, non, mais vous avez pointé le doigt sur la profonde contradiction entre les discours des différents présidents. Hein. C'est le cas du président Macron, mais c'est également le cas, ce fut le cas du président, c'est le cas du président Macron à travers deux discours emblématiques, qu'il a présenté comme emblématique, un discours à la jeunesse africaine en novembre 2017 à Ouagadougou, et puis un discours il y a quelques mois seulement, donc en mai, préalable à l'Élysée, préalable à une nouvelle approche de la relation, non pas avec les pays du Sahel, mais avec les pays d'Afrique centrale, nommément la République centrafricaine, le Gabon, et le Congo et la RDC, où il s'était rendu en mai dernier. Force est de constater qu'il y a une très grande différence entre le narratif et le discursif et la réalité. C'est également vrai avec Nicolas Sarkozy quand il prononce son discours en 2009 au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop, avec des mots qui ont blessé, profondément blessé les Africains. On est très loin de l'exemple américain, je le prends à dessein, quand le président Obama prononce un discours à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union africaine en 2017, il évoque bien le fait qu'il faut parler à tout le monde, aux sociétés civiles, aux oppositions, aux régimes en place, pour ne pas dire que les régimes en place ont vocation à être remplacés par les deux catégories précédentes. Or, notre discours n'est pas tout à fait le même. Nous discutons avec les régimes en place, partant du principe que, comme nous sommes un État dit normatif, nous croyons dans la religion de l'élection. Or, force est de constater que les processus électoraux ne sont pas conformes à l'esprit démocratique tel que l'on souhaiterait qu'il soit. Ce fut le cas, donc, comme je le disais, lors de l'élection présidentielle au Gabon en 2016. Ce fut le cas encore une fois, il y a quelques jours, à Libreville. C'est la raison pour laquelle les militaires ont pris le pouvoir. Donc, c'est vrai que vous avez raison de mentionner le fait que, parfois, nous sommes associés à des processus électoraux qui sont illégitime ou en tout cas perçu comme non conforme à l'aspiration des jeunesses de ces différents pays. Prenons l'exemple du Sénégal, qui est un cas d'école. La population a rejeté massivement la volonté de Macky Sall de se présenter pour un troisième mandat l'année prochaine. La population sénégalaise, en adoubant un candidat, Ousmane Sonko, et évidemment la France en ne récusant pas la manière dont le président Macky Sall a réprimé les manifestations, donne l'impression que la France avait vocation à soutenir in extremis ou jusqu'au bout le président sortant, enfin l'actuel président qui sera sortant en 2024. Donc c'est évidemment une gageure très...
Et qui a annoncé qu'il ne se représentait pas, contrairement à ce qui avait été envisagé.
Absolument, qui a annoncé qu'il ne se présentait pas, mais qui a néanmoins fait en sorte que son contendeur, au sein de son cours,
le principal opposant soit mis hors jeu.
Que l'opposant soit carrément invalidé et donc ne puisse pas concourir. Donc on a quand même le sentiment qu'in fine, il a obtenu ce qu'il voulait. Mais bon, pour revenir à votre question, c'est vrai que nous avons, nous, la France, contrairement peut-être à d'autres pays qui ont un passé colonial, le Portugal avec ses décolonisations à partir de 1975, l'Espagne avec après la mort de Franco en 1975 également, ou on peut citer de manière plus lointaine l'Italie, n'avons pas la même relation avec le continent africain parce que notre colonisation a été plus massive. On pourrait faire la comparaison avec la Grande-Bretagne, mais force est de constater que les Britanniques ont aussi eu par le passé leurs difficultés avec leurs anciennes colonies. C'est le tour de la France. Pourquoi ? Parce que la France a peut-être trop longtemps pensé qu'elle était la seule à pouvoir parler du continent européen vers le continent africain. Je crois que ce temps-là est révolu. La France-Afrique est déjà dépassée depuis longtemps. Par contre, l'Eurafrique n'est pas encore engagée, n'est pas encore entamée. C'est peut-être là une façon de remettre les choses dans le droit chemin.
Alors, ce sera ma dernière question. Justement, ça tourne un petit peu autour bien de la relation exclusive que la France a souhaité mener, conduire et faire perdurer avec un certain nombre d'États africains, en particulier les États de nos anciennes colonies et après, de manière plus large, les États francophones et puis avec tout le continent. Est-ce que, quand même, on peut valider une certaine perte d'influence de la France sur le continent africain, au sens où, quand on regarde quelques indicateurs, par exemple les échanges économiques, on voit que la France, y compris dans le pays dont elle était le plus proche historiquement, il y a une baisse des échanges économiques, en particulier au profit de la Chine, mais aussi des États-Unis, de l'Allemagne. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une menace qui pèse en corollaire sur la francophonie ? On sait que certains régimes dénonce le fait que la langue française soit langue officielle ou quasi-officielle dans un certain nombre de pays. Donc, est-ce qu'elle n'est pas en plus de ce qu'on a décrit sur le plan diplomatique et militaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que, économiquement et en termes d'influence, eh bien, la France soit sur une pente déclinante?
Oui, il y a effectivement un risque de décrochage, hein, vous avez parfaitement résumé. La part du la balance commerciale entre la France et le continent africain est bien en deçà de ce qu'elle était encore il y a 20 ou 30 ans. On en est quasiment seulement à 54, 55, allez, moins de 60 milliards d'euros. C'est évidemment moins que ce que la trajectoire de à l'époque dite de la France-Afrique laissait présager. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, vous avez raison de dire qu'il y a une concurrence très forte avec des pays qui depuis une trentaine d'années ont sillonné, pour ne pas dire irrigué, le continent africain, la Chine, l'Inde, et bien évidemment la Russie, qui ne fait pas son arrivée, mais fait son retour, n'arrive pas, mais fait son retour, de par les relations très fortes entre pays de centralisme démocratique, disons-le ainsi, entre l'URSS et les pays donc à dit partie unique. Mais je crois que la France a aussi des concurrents beaucoup plus proches d'elle, ses partenaires européens. Vous avez raison de rappeler que la France est non seulement dépassée par l'Allemagne, mais elle est désormais dépassée par l'Italie en Tunisie, par l'Espagne au Maroc. Là où les Français étaient encore, il y a moins de 10 ans, les premiers partenaires économiques de ces pays. Donc c'est vrai que c'est une concurrence de plus en plus farouche qui implique non seulement une responsabilité étatique, mais aussi une responsabilité des entreprises elles-mêmes. La volonté d'investir en Afrique, la volonté de penser que les investissements sur le continent africain sont sûrs, doivent être durables, pérennes, et concurrentielle avec d'autres investissements sur d'autres continents, en Asie, en Europe, évidemment, vis-à-vis du continent nord, enfin de la partie donc septentrionale du continent africain, sont aussi une partie du problème. La présence française n'est pas seulement une présence étatique, c'est une présence qui est avant tout économique. Or, si les opérateurs économiques ne veulent plus investir en Afrique, il est compliqué de les forcer à le faire. En tout cas, il est parfaitement inimaginable de le faire. Il en va de même avec l'aide publique au développement. L'aide publique au développement est certes importante, mais elle est infinitésimale par rapport à l'aide privée au développement. Le poids de la diaspora, qui peut être un levier sur lequel la France devrait peut-être s'appuyer davantage, correspond à 10 fois le montant de l'aide publique au développement, en l'occurrence véhiculée par l'Agence française de développement. Alors vous avez aussi mentionné le fait que la présence française sur le continent a été un peu mal interprétée ou hypertrophiée par l'omnipuissance de sa présence militaire. Là aussi, c'est peut-être un tournant que nous avons mal négocié. On a, avec Pierre-André Wilser, en 2008, tenté de réviser les 28 accords de défense en les transformant en accords de coopération. Force est de constater que parfois ces accords ont été pris comme des assurances tout risque pour des chefs d'État et de gouvernement qui ne réduisaient la relation à la France qu'à la relation militaire. D'un mot, je crois que la France a trop appuyé sur le fait qu'elle était un acteur important, déterminé et déterminant pour le continent africain à travers sa seule diplomatie de défense. Nous aurions peut-être moins dû investir dans le champ militaire et davantage dans d'autres domaines. Les États-Unis, par exemple, ont tenté de libéraliser leurs relations avec le continent africain. Ça s'appelle l'AGOA, l'African Growth Initiative. Ça avait été lancé par le président Obama. Le président Biden a lancé une autre initiative visant à promouvoir la démocratie sur le continent africain. Ce sont des choses qui peut-être parlent plus, résonnent plus ou font davantage écho au mouvement et au dynamisme des sociétés civiles. Peut-être que nous n'avons pas su, peut-être nous n'avons pas avec certitude su entendre ce discours de fond, qui est un discours que d'autres pays désormais embrassent artificiellement, c'est le cas de la Russie, ou à leur profit, c'est le cas de la Chine.
Merci beaucoup Emmanuel Dupuis pour avoir été extrêmement complet finalement, et on a pu balayer les principaux sujets autour de la relation entre la France et le continent africain. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et donc, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation dans l'émission et d'avoir répondu à notre question. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de l'émission avec notre deuxième invité qui est Jean-Marie Bockel.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire, et toujours sur le sujet de la relation entre la France et l'Afrique, après Emmanuel Dupuis, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Bockel. Bonjour.
Bonjour.
Merci, Monsieur Bockel, d'avoir accepté notre invitation. Hein. On a déjà eu le plaisir de vous recevoir dans cette émission et également sur Radio-Orient. Vous êtes ancien ministre, ancien parlementaire et surtout bien passionné comme acteur et aussi comme observateur bien par les relations internationales et en particulier sur la relation entre la France et l'Afrique. La première question, Jean-Marie Bockel, elle va peut-être raviver chez vous des souvenirs, mais vous avez été un des rares hommes politique français quand vous étiez secrétaire d'État à la coopération, à la francophonie, à demander le changement des relations entre la France et l'Afrique, à mettre ce qu'on appelait un petit peu à l'époque encore la France-Afrique, à mettre à bas et à créer une nouvelle relation. Est-ce que vous considérez avoir été un peu visionnaire? Et au regard de ce qui est en train de se passer, finalement, est-ce que la France-Afrique disparaît, mais dans un processus qui n'est pas voulu, mais qui est un petit peu subi?
Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, à l'époque, donc nous étions en 2007, et je rentrais au gouvernement comme ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy. J'avais sollicité, puisque on m'avait laissé un certain choix, ce poste à la coopération et à la francophonie, me référant au discours que le candidat Sarkozy avait fait en début d'année à Cotonou, où il avait décrit ce qui devait être, selon lui, une nouvelle relation à l'Afrique, et discours dans lequel je me retrouvais parfaitement. Et au bout de quelques mois de présence au gouvernement et d'action dans le respect de cette feuille de route, en lien d'ailleurs étroit avec le président d'époque et ses collaborateurs, et notamment ceux de la CEDEAO d'Afrique, j'ai eu le sentiment que il y avait tout de même quelques freins, que les discours tardaient un peu à se mettre en acte, et ça a été donc cet appel que j'avais lancé début 2008, pour lequel j'avais d'ailleurs eu dans un premier temps le soutien de Nicolas Sarkozy, puis ensuite, quelques semaines plus tard, effectivement, à la suite d'influences diverses, on a considéré qu'il valait mieux que je change de poste. Ce qui montrait d'ailleurs, d'une certaine manière, que, au fond, mon intuition n'était pas complètement infondée, parce que si il n'y avait plus de reste ou de relent de cet esprit détestable de la France-Afrique, peut-être que personne n'aurait souhaité mon départ. Donc, au fond, d'une certaine manière, mon départ montrait bien qu'il y avait encore un peu de travail. Alors ça, c'est la première chose. Et je m'honore tout à fait d'avoir assumé mes positions à l'époque. La deuxième chose, c'est la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui n'est pas le fruit de je ne sais trop quel post-colonialisme. Des pays, et là vous évoquez la situation du Gabon indépendant depuis plus de 60 ans, et ce qui s'est passé, au fond, relève complètement à la fois du mode de gouvernance de ce pays, hein, que je n'ai pas besoin de rappeler, hein, déficient à bien des égards, mais au fond c'est la responsabilité du pays. Bien sûr que c'est un pays parmi d'autres avec lequel nous avons gardé une relation privilégiée, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, à condition évidemment que ce soit sur des bases saines. Et je pense que du côté de la France, depuis quelques années, même si aujourd'hui on est dans le French bashing, beaucoup d'efforts ont été faits pour normaliser la relation, qu'elle soit politique, économique, sécuritaire, de développement. Je pense quand même que aujourd'hui, nous en tout cas, même si ça n'est pas terminé et même si ça n'est pas compris, nous avons tourné une page et nous devons peut-être parachever le travail. Et là, on n'est plus dans la vieille France-Afrique des vieux réseaux, mais dans un certain regard porté en Afrique, et notamment par la jeunesse africaine, sur l'ancienne puissance coloniale que nous sommes encore à leurs yeux. Et ce regard, évidemment, il faut qu'il change. Il faut qu'il change, et ça peut, et ça doit aussi passer par un certain nombre de gestes, voire de décisions de notre part.
Alors justement, revenons effectivement sur les quinquennats d'Emmanuel Macron et les attentes aussi que certains discours ont pu susciter, et en particulier sur le continent africain. On pense notamment au discours du président Macron à la jeunesse africaine. Est-ce qu'il n'y a pas encore quand même certaines contradictions, au sens où le sentiment... c'est que les gouvernements français, les gouvernements d'Emmanuel Macron comme les autres, soutiennent les régimes en place, et en même temps Emmanuel Macron disait et a dit dans ses discours vouloir se tourner plus vers la société civile et vers la jeunesse. Or là, il y a une certaine contradiction, puisque souvent les régimes en place le sont depuis très longtemps, les conditions d'alternance démocratique sont rarement réunies, et il y a souvent un fossé entre les opinions publiques, la jeunesse, on l'a vu encore au Gabon, et malheureusement, ça se termine parfois par des interventions de l'armée qui, puisque les élections sont, disons-le, truquées, déposent le chef d'État qui se représente pour le 3, 4 ou 5e mandat. Et donc ça crée quand même une certaine contradiction entre les faits et les discours.
Oui, je partage pour l'essentiel votre constat. Je nuancerai quand même sur un point quand vous dites que nous soutenons. Ben, il faut quand même bien distinguer deux choses. Et d'ailleurs, agir autrement serait une forme de néocolonialisme qu'on pourrait nous reprocher. Soutenir, pas soutenir. Nous avons vocation à travailler, sauf des cas extrêmes, de situations sur lesquelles la communauté internationale doit se mobiliser. Mais nous avons vocation, comme tout pays, et notamment pays...
À travailler avec les gouvernements en place.
Avec exactement les pays tels qu'ils sont, et c'est pas à nous de dire le bien, le mal, etc. Donc cette nuance étant apportée, quand vous dites qu'il y a une contradiction entre les discours et les actes, creusons un peu ce postulat. D'abord, les discours, il vaut mieux... en ce qui me concerne, que ce soit des discours dans lesquels je me retrouve, que le contraire. Vous avez parlé tout à l'heure du discours de Cotonou à l'époque de Sarkozy, qui n'a pas ensuite été complètement mis en œuvre, même si à certains égards il l'a été, comme par exemple la révision des accords de défense, qui s'est bien faite, mais bon, les bases prépositionnées sont quand même restées. Les discours du président Macron sur l'Afrique sont des discours, des idées dans lesquelles très souvent je me retrouve. Mais il y a la question du passage à l'acte qui est clairement posée. Et ça, si vous voulez, ça se décline de plusieurs manières. Prenons quelques exemples pour être concrets. Premier exemple, qui n'est pas lié au Gabon, mais qui concerne, par exemple, la situation au Niger et dans des pays de la région qui ont basculé, comme vous l'avez rappelé à l'instant, à travers des coups d'État. Nous avions une démarche de partenariat, par-delà l'intervention militaire au Mali, qui s'appelle encore d'ailleurs le G5 Sahel, et qui, là, était clairement des actes et qui avait pour vocation, dans le domaine sécuritaire, c'est-à-dire contribution à la reconstruction des armées locales qui s'étaient délitées du fait des dirigeants de l'époque. Donc, soutien à une autonomie sécuritaire d'une part, soutien demandé par ces pays à la reconstruction de l'État, je ne parle même pas de l'État de droit, mais de l'État tout court. Au Mali, on disait qu'à l'époque, il y avait pratiquement 9% encore d'État dans les territoires par rapport à quelques décennies plus tôt, donc il y avait de moins en moins d'État. Et puis le troisième élément, évidemment, c'est le soutien à tous les efforts de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, et partant, bien sûr aussi, de développement, c'est-à-dire tout ce qui peut aider les populations, et notamment la jeunesse, à trouver son avenir, sa place, dans des conditions acceptables, décentes, dans son propre pays. Tout ça, c'était des actes. Ça n'a pas fonctionné. Après, c'est une remise en question. pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et notre part française de remise en question, c'est là-dessus que je me veux un peu force de proposition, c'est de dire, est-ce que nos outils, souvent excellents, reconnus, n'ont pas à un moment donné, au niveau des décideurs, manqué de coordination. Je critique notamment, je considère que ce qu'on appelle la cellule Afrique appartient au passé. D'ailleurs, son nom même évoque le passé, Focard, ses réseaux, etc., même si évidemment on est loin de tout ça, mais quand même, ça apparaît comme une survivance. Je pourrais également évoquer l'adaptation de notre dispositif d'affaires étrangères, le Quai d'Orsay, à cette réalité. Hein, certains pays ont mis en place des dispositifs distincts du ministère des Affaires étrangères sur la manière d'établir des partenariats politiques, stratégiques avec certaines régions sur certains continents, notamment en Afrique. C'est toute la question d'un ministère du développement international ou pas. Enfin, tout ça, ce sont des questions qui sont sur la table. Moi, j'ai même parlé à un moment donné de pôle Afrique, c'est-à-dire regroupant un ensemble qui serait bien sûr sous l'autorité du chef de l'État, regroupant à la fois la dimension sécuritaire, ça reste un sujet, il n'y a pas de sécurité, rien ne peut se faire, la dimension évidemment politique et diplomatique, et la dimension de développement. Hein, car là aussi, nous avons parfois... nous sommes l'objet de critiques, de manière à pouvoir vraiment être des partenaires encore plus efficaces lorsque ces partenariats sont sollicités. Donc, vous voyez, le passage du discours aux actes, c'est un peu ça. C'est aussi peut-être sortir d'un sentiment d'arrogance qui est parfois perçu, à tort ou à raison. Hein. Regardez à Montpellier, par exemple, j'avais évoqué le discours à la jeunesse, qui était très bien. Les chefs d'État africains en avaient été exclus. Ça a été mal compris. Même si ces chefs d'État, à bien des égards, sont critiquables, est-ce à nous de les exclure? Et puis, il y a un dernier point qui est un point sensible, qui est aussi un peu d'actualité, et là, pour le coup, tant au Niger qu'au Gabon et dans les autres pays, c'est la présence militaire française prépositionnée depuis la période post-coloniale, et sur laquelle, évidemment, nous interrogeons. Et comme l'a d'ailleurs dit le président lui-même, ça, je pense qu'on est d'accord, mais encore faut-il aussi le faire, il faut remettre tout ça à plat. Il ne faut pas qu'une présence militaire apparaisse, même si tout le monde a compris que nous n'intervenions plus dans les conflits internes, que nous n'empêchions plus ni les coups d'État, ni nous ne soutenons un dirigeant ou que sais-je, mais le simple fait qu'elles existent font de nous des boucs émissaires. Donc ça, ce sont des questions à revoir au cas par cas. Je ne dis pas que il ne doit y avoir plus aucune force française nulle part, parce que parfois, ça peut faire l'objet d'un débat ouvert dans les pays concernés et qui peuvent amener à ce que ici ou là nous restions. Regardez, il y a certains autres pays, les États-Unis, la Chine, qui sont présents à Djibouti, les États-Unis au Niger, etc. Je ne vois pas pourquoi nous, alors que nous avons fait notre devoir, nous partirions d'humiliation. Mais tout ça doit être remis à plat. Et enfin, je dirais, s'agissant du procès qui nous est parfois fait, y compris en France, concernant Serval et Barkhane, j'étais un des premiers à dire, j'ai vu que l'argument a été repris, y compris par le président de la République, que s'il n'y avait pas eu cette intervention, nous n'aurions pas aujourd'hui, notamment sur les pays du Sahel, les mêmes débats, puisque ces pays n'existeraient plus. Mmh. Donc, ensuite, on peut se poser la question de la durée d'une présence, c'est un vrai sujet, hein, mais pour autant, moi, je considère que les militaires français sur Barkhane ont rempli leur mission telle qu'elles leur ont été assignées, et on n'a pas à rougir. Au contraire, on peut être fier de l'engagement et parfois même du sacrifice de nos soldats. Et beaucoup d'Africains, des pays concernés, j'ai beaucoup d'amis en Afrique, y compris dans les pays concernés du Sahel, le reconnaissent, même si aujourd'hui il n'est pas de bon ton de le dire publiquement. Mais pour autant, je pense que le fait que la France aujourd'hui soit de plus en plus, pour diverses raisons, et souvent de mauvaises raisons, avec parfois des jeux d'influence d'autres puissances désignées comme un bouc émissaire, plutôt que de s'en lamenter, plutôt que de dire partons de plus nous, disparaissons du paysage, nous devons nous remettre en question pour ce qui peut relever de notre capacité d'agir pour que le regard à l'avenir change et que nous soyons à nouveau, comme ce fut si longtemps le cas, y compris dans ces pays que j'ai sillonnés, y compris à travers des coopérations décentralisées comme maire, qui furent des réussites et qui étaient des partenariats d'égal à égal, que cette attente de France qui existe puisse à nouveau s'exprimer. Et là, évidemment, il y a quelques signes et quelques décisions et quelques actes que nous devons à notre tour poser lorsque le moment sera venu. Peut-être pas en pleine crise en ce moment, mais en tout cas, le plus tôt sera le mieux.
Alors, je voudrais vous poser une dernière question, mais s'il vous plaît, je vous demanderai une réponse courte, parce que malheureusement, on est déjà presque à la fin de notre entretien. Emmanuel Dupuis disait effectivement qu'il faut peut-être, c'est un peu le sens aussi de votre propos, rééquilibrer entre effectivement les relations bien d'ordre militaire, sécuritaire, c'est ce qui quand même a dominé ou prédominé dans ces dernières années, en particulier depuis l'intervention au Mali, et peut-être retravailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon de géopolitique, sur le soft power et sur la relation bien économique, humanitaire, coopération que vous avez évoquée. Peut-être que effectivement c'est une piste pour la reconstitution d'une relation plus apaisée entre la France et un certain nombre de pays africains.
Je partage totalement l'opinion émise par Emmanuel Dupuis. Et pour y parvenir, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous sachions à partir des outils que nous avons. En matière de développement, nous avons par exemple l'Agence française de développement, nous avons des outils culturels, de francophonie, nous avons aussi quelques outils sécuritaires pour être aux côtés lorsque ça nous est demandé des forces de sécurité des pays concernés pour qu'elles puissent se reconstruire, mais aussi des outils diplomatiques, des outils également étatiques, hein, pour soutenir la reconstruction des États. On a besoin, ces pays ont besoin d'avoir des États qui fonctionnent. C'est évidemment le point de départ. Dans tous ces domaines, nous avons une expertise, elle est reconnue, hein, elle est même une des meilleures au monde. Il faut que nous arrivions à nouveau à mettre en quelque sorte en cohésion sur un même territoire par rapport à des mêmes responsables, qu'ils soient étatiques ou de la société civile, hein, du monde économique, du monde des ONG, des autorités locales, cette capacité française, cette task force française, hein, de manière à ce que nous puissions à la fois retrouver de l'influence, parce que c'est aussi notre intérêt, hein, d'être présent, et il n'est pas mal de défendre ses intérêts quand on est un pays, mais également ce que représente la France au niveau de nos idéaux et sur lesquels il y a aussi, et au niveau culturel aussi, et au niveau de notre place dans le monde comme membre permanent du Conseil de sécurité, il y a aussi là une attente de France, car nos amis africains, même s'ils savent que maintenant les Chinois, d'autres pays, les Russes, les Turcs, d'autres encore, sont là pour longtemps, ils ont aussi vu les limites de ces présences-là, parfois de la prédation, parfois certainement moins de respect que des partenaires français, et ils se disent, eux, peut-être aussi, notamment les responsables émergents, que retrouver une autre relation avec un pays comme la France et à ses côtés d'autres pays européens, c'est aussi leur intérêt.
Merci beaucoup Jean-Marie Bockel pour avoir éclairé ce débat et répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, ancien parlementaire, et on l'a vu toujours très, très bien informé et très au fait de la situation des relations entre la France et les pays d'Afrique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était l'émission « Et si on en parlait ?». C'était notre émission de la rentrée en partenariat avec la revue politique et parlementaire. À la semaine prochaine. Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.